anda à anda. L'expression peul, c'est ça andi à anda à andan. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Alors si tu arrives à ces initiatives, tu commences à lui poser des questions, et pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça, lui il s'éteint.
Eh bien nous on va tout savoir ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de portraits, de prostitution, d'Abidjan, de cinéma flou, d'anthropologie, d'ethnographie et même de petits cocos avec Eliane Delatour qui signe Go de nuit, Abidjan, les belles retrouvées, portrait de jeunes prostituées ivoiriennes qui retrouvent par la photographie dignité et beauté, Manou Farine.
Portrait d'une anthropologue et cinéaste qui revendique la posture subjective et pour qui photographie, écriture et cinéma ramènent les relégués au centre.
19h30, plateau Comte avec Muriel Bloch à quelques jours du 30e salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. Retour sur la course autour du monde d'une conteuse entre littérature et ethnographie, Benoît Lagan.
L'occasion de revenir sur l'histoire de celle qui, depuis le renouveau du Comte, défend une internationale de l'art de la parole partout et ailleurs, des médiathèques aux scènes de théâtre en passant par les musées.
19h50, la session live du vendredi ce soir, transmusicale avec Jeanne Haddad, une programmation de notre réalisateur Thomas Beau. Mais tout de suite, eh bien, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan que l'on ouvre d'abord avec le son du jour de Zoé Sfels.
Mercredi 3 mai 1944. Cher Kitty, comme tu peux t'en douter, on se demande souvent ici avec désespoir, à quoi bon ? Oh, à quoi bon cette guerre ? On ne me fera jamais croire que la guerre n'est provoquée que par les grands hommes, les gouvernants et les capitalistes. Oh non, les petites gens aiment la faire, au moins autant. Sinon les peuples se seraient révoltés contre elle depuis longtemps. Il y a tout simplement chez les hommes un besoin de ravager, un besoin de frapper à mort, d'assassiner et de s'enivrer de violence.
Bonsoir Zoé Sfèze.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et comme à l'accoutumée, il ne date pas d'hier.
Non, alors on entendait une lecture du journal d'Anne Frank par Irène Jacob, le journal peut-être le plus célèbre du XXe siècle qui fait l'objet d'une véritable bataille juridique en ce moment. Parce que ça fait longtemps que beaucoup attendent que ce journal tombe dans le domaine public. Normalement ça devait être le cas bientôt, puisque selon la loi, les livres des auteurs sont libres de droit 70 ans exactement après leur mort. Anne Frank est morte en février ou en mars 1945, on n'est pas tout à fait sûr, du typhus dans le camp de Bergen-Belsen. Son journal devrait donc devenir libre de droit à partir de l'hiver 2015. Mais la situation est plus compliquée que ça, puisque le journal a été retrouvé par son père, Otto Frank, seul rescapé de toute la famille Frank, qui l'a travaillé et qui l'a fait publier. Il pourrait donc être considéré comme co-auteur du livre. Or, il est mort en 1980, ce qui repousserait à 2051 l'échéance pour que le livre tombe dans le domaine public. La Fondation Anne Frank a Amsterdam, qui veille à l'intégrité du texte, plaide en faveur de cette extension, puisque la grande crainte, c'est que le livre, une fois tombé dans le domaine public, puisse ne soit repris, puis recoupé et instrumentalisé, notamment par les négationnistes ou les révisionnistes. Puis par ailleurs, il faut se rappeler que Otto Frank avait coupé environ 30% du texte en enlevant tous les passages qui lui semblaient trop intimes ou trop personnels, notamment sur la puberté ou la sexualité. Affaire à suivre, donc.
Merci Zoé, vous êtes libre, le week-end commence pour vous tout de suite. Et vous partez où d'ailleurs ?
Non mais là je vais rester pour écouter un peu.
Ah je croyais que vous alliez au théâtre.
Aussi, je vous raconterai ça lundi.
Exactement. Eh bien on n'a pas fini. On poursuit avec notre supplément week-end, Benoît Lagan, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Et pour ouvrir ce supplément, eh bien, on commence par votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et ce soir, Laurent, à quelques jours de l'ouverture du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, je m'arrête sur Once Upon a Time. La saison 3 de cette série américaine est très attendue la semaine prochaine auprès des jeunes téléspectateurs, mais aussi les moins jeunes comme vous. Laurent et moi.
Parlez pour vous.
Mardi prochain, donc sur la TNT, sur Sisters et la petite sœur d'M6, les fans de la série vont pouvoir suivre, après un an d'absence, la suite des aventures du jeune Henry, 10 ans, et de tous ses compagnons, des héros gentils et méchants, tous issus des contes traditionnels. Alors si vous avez manqué le début, ils vous racontent.
Bienvenue à Storybrooke.
Ici, le temps s'est arrêté.
Qu'est-ce que tu racontes ?
C'est la méchante reine qui a jeté un sort. Tous ceux qui vivaient dans la forêt enchantée se sont retrouvés ici.
C'est un bon début d'histoire. Méchante reine a expédié ici les personnages de contes.
Ouais, et ils ont tous oublié qui ils étaient.
Dorénavant, la fin des contes se joue aujourd'hui et dans notre monde.
Je vous souhaite un bon séjour. Emma.
Once upon a time.
Alors, pour nous en parler, qui avez-vous appelé cette semaine, Benoît ?
Eh bien, partant du principe qu'il n'y a pas qu'à Paris que l'on a un avis, j'ai appelé le conteur poitevin Yannick Jolin, actuellement en tournée, et je lui ai demandé de visionner
quelques épisodes entre deux spectacles, et Annick Jolin, qui a vu notamment dans cette série une sorte de relecture de l'épopée biblique du peuple en exil, s'est beaucoup amusée en visionnant cette version télévisuelle et sérielle des contes de fées. On l'écoute.
Once Upon a Time, c'est vrai que c'est extrêmement bien fait. Il y a une intelligence là-dedans, dans cette espèce de parallèle entre un monde d'aujourd'hui et ce monde du temps des fées. Alors après, on est vraiment dans le pur produit américain au niveau de la série. On est dans le bien et le mal avec des personnages qui sont... on ne peut pas les confondre. La méchante fée qui se retrouve être Madame le Maire aujourd'hui est absolument méchante et sidérante de méchanceté, mais elle est forcément attirante comme le mal peut l'être. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'on joue là-dessus sur le fait qu'on est tous des princes. Au fond de nous, il y a quelque chose d'un personnage de conte qui forcément nous habite, puisqu'on touche là des archétypes, on touche des profondeurs, on touche des choses qui sont à l'intérieur de nous, de tout temps, de toute éternité. Et donc, moi, il y a quelque chose qui a résonné extrêmement fort là-dedans, dans cette mise en perspective d'être dans une vie absolument ordinaire, et tout à coup de pouvoir envisager d'être là, mais d'avoir oublié notre puissance, notre grandeur passée.
Et donc cette série financée par Disney et créée par des anciens de la série Lost surfe sur la vague du moment. Je pense par exemple à Blanche-Neige et le Chasseur ou Hansel et Gretel au cinéma. Et à la télévision, il y a eu Grimm et donc maintenant Once Upon a Time. J'ai donc demandé à Yannick Jolin ce qu'il pensait de cette mode qui pousse des scénaristes américains à remettre au goût du jour ces figures traditionnelles.
Je crois que même les conteurs d'aujourd'hui sont extrêmement embêtés de transporter avec eux des figures qui paraissent un petit peu poussiéreuses. Donc tout le monde se débrouille pour... Alors il y en a qui contournent en ne racontant plus des contes de fées, mais en racontant de la tranche de vie, en faisant du témoignage de vie ordinaire. S'attaquer aux contes traditionnels aujourd'hui, c'est se brûler aussi les doigts. Et cette manière-là de pouvoir le transporter aujourd'hui, avec ce que ça comporte de premier degré, hein, parce que je me dis, moi, en ayant vu que les trois premiers épisodes, je me demande comment ça peut tenir dans le temps avec ce ton-là, cette temporalité-là. Mais c'est extrêmement efficace et pour moi, c'est... oui, je me dis waouh, ils sont très forts quand même. Ouais.
Donc pour vous faire une idée, découvrir cette série, les saisons 1 et 2 sont disponibles en DVD sur plusieurs plateformes VOD, puis la saison 3, donc inédite, arrive elle mardi prochain gratuitement à la télévision, c'est sur Sister.
Peut-être une réaction de Muriel Bloch, conteuse, sur ce sujet, sur ce dossier.
Ouais, d'abord, c'est rare de trouver des fées. Enfin, je veux dire, l'expression conte de fées n'est pas tout à fait juste. Ce que j'ai trouvé beau dans votre présentation, c'est l'idée de la forêt de l'oubli et que des personnages de contes s'y retrouvent et ils ont plein de trucs à se dire, je pense. Et c'est nécessaire, ce monde manichéen dans lequel il y a des forces du mal qui ne triompheront sans doute pas à la fin de l'affaire. Mais je pense qu'on attribue aux fées des pouvoirs qu'elles n'ont pas dans les contes traditionnels. C'est une invention assez littéraire et les fées sont des manipulatrices, il y en a des bonnes et des mauvaises. Mais ça, c'est une idée un peu... Et par contre, ce que dit Yannick sur le fait qu'aujourd'hui, les contes traditionnels ne sont plus racontés par les conteurs qui se présentent comme tels, ça oui, et ça me chagrine. Parce que c'est pas une question de passé ou de réactualisation, il y a une atemporalité justement. Once Upon a Time, ça nous met à côté du temps et ça veut dire ici, maintenant. Et ces histoires restent symboliquement nécessaires, fortes, mais tout dépend du conteur.
Alors justement, pourquoi d'après vous, les conteurs ne vont plus du côté de ces contes traditionnels, Muriel Bloch ? Qu'est-ce qui se passe pour que la télévision s'en empare ou même le cinéma ?
Comme s'il y avait justement une sorte de non-connaissance, à mon avis, de ce qu'est le conte. Parce qu'il y a eu mais c'est un peu de notre faute, mais j'appartiens à la première génération, on a formé beaucoup de gens parce qu'on avait envie que l'art du conte perdure, contrairement au folk, par exemple, et pour ne pas tomber dans le folklore, justement, et les conventions et le conservatisme de tout ça. On a organisé énormément d'événements, on a formé beaucoup de gens, et encore aux quatre coins de la France, il y a des festivals, des amateurs qui racontent. Et finalement, pour certains, le bon vieux temps et la poussière dont parle justement Yannick Jolin, moi, je ne la ressens pas du tout. Je pense qu'au contraire, on a besoin de récits forts, on a besoin de récits symboliques qui, justement, font peur. Parce qu'on n'ose plus plonger dans ce qu'on appelle le merveilleux. Et la force de l'émerveillement, les surréalistes la connaissaient, cette forêt de l'oubli, elle porte en elle-même quelque chose de très fort. Et c'est pas très intéressant de raconter la vie des gens. Je trouve, le petit jeu des gens, à mon avis, c'est un rétrécissement un rétrécissement généralisé aujourd'hui, sur les petits nombrils.
Benoît, et l'on poursuit tout de suite avec votre petite revue de presse de la semaine. Alors lundi, c'était fini.
Oui, lundi, en une des pages écrans et médias, Libération revenait sur les problèmes financiers du mensuel culturel Technicart, qui n'est pas sorti en kiosque au mois d'octobre. Isabelle Anne, la journaliste de Libé, explique dans son article que certains pigistes de Technicart ne sont plus payés depuis des mois, voire des années, et que depuis 6 mois, les salaires seraient systématiquement versés en retard. Le fondateur et directeur de la publication de Technicart refuse qu'on enterre pour autant son journal et annonce une nouvelle formule en février. Dossier à suivre.
Mardi, c'était pour les petits.
Oui, comme le veut la coutume, c'est mardi, une semaine avant l'ouverture du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qu'avait lieu à Montreuil la remise de ses prix littéraires, les fameuses pépites. Le lendemain, mercredi, plusieurs médias tels que France Info et L'Express en faisaient l'écho. Voici quelques-unes de ces pépites. Deux, celle de l'album de l'année a été remise à Michel Galvin pour La vie rêvée, paru aux éditions du Rouergue. Et celle du roman adolescent de l'année a été attribuée à Timothée de Fombelle pour Le Livre de Perles, paru chez Gallimard Jeunesse.
Et mercredi, c'était technologie.
Dans les pages saumon du Figaro, la journaliste Caroline Salé écrit « C'est le genre d'exception culturelle que l'on aimerait bien voir se multiplier en France. Le plus gros blockbuster de tous les temps vient de succomber à la technologie d'une petite PME française installée en banlieue parisienne et à Angoulême. »
Bon, ça veut dire quoi ?
James Cameron vient de signer un accord avec les studios Solid Anim, société spécialisée depuis 2007 dans l'animation 3D et installée en banlieue parisienne et près d'Angoulême. Ces studios travailleront sur les 3 prochains volets d'Avatar.
Et aujourd'hui ?
Eh bien, pour terminer, une information sans intérêt, commentée pour autant toute la journée dans les médias et les sites internet, c'est dire son importance, celle de la sortie à la une de Voici ce vendredi, des photos soi-disant volées de François Hollande discutant avec Julie Gayet à l'Élysée. Eh bien, dans un entretien à BFM TV, merci beaucoup, relayé par l'AFP, Marion Alombert, la rédactrice en chef de l'hebdomadaire, a donné quelques informations primordiales, sans toutefois révéler les secrets de fabrication de son magazine. Voici ce qu'elle a déclaré, je la cite. On voit le président et Julie Gayet à l'intérieur de l'enceinte du palais présidentiel, mais elles ne sont pas prises de l'intérieur. Elles ont été prises par au-dessus, mais pas du tout par un drone. On n'utilise absolument pas ce genre de méthode. Ah, voici, on ne fait pas ça. On est rassuré.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Eliane Delatour, Muriel Bloch ? Eliane Delatour ?
Non.
Pas de... Non. Muriel Bloch ?
Ça y est, moi j'ai réagi.
Eh bien, c'est fait. Alors on commence.
19-20, le rendez-vous.
Rendez-vous.
C'est sur France Culture.
Plateau Abidjan avec vous, Eliane Delatour, anthropologue, photographe, cinéaste. En 2008, alors que vous étiez à Abidjan, vous avez entrepris un travail avec des jeunes ivoiriennes prostituées, celles des ghettos, les moins chères du marché, à 1,50€ la passe. Et ce premier contact est devenu un échange quand vous avez commencé à les photographier, ce qui a donné lieu à une première exposition en 2011 à la Maison des Métallos à Paris. Le titre était « Go de nuit, Abidjan, les belles oubliées ». Je signale que « go » veut dire « jeune fille ». 3 ans plus tard, et une guerre civile plus tard aussi, vous y retournez avec des projets et cette fois un financement de réinsertion. Et au final, vous êtes de retour à la Maison des Métallos à Paris avec une deuxième exposition, cette fois titrée « Go de nuit, Abidjan, les belles retrouvées ». Et c'est dans le cadre du mois de la photo à Paris. Qu'est-ce qui a changé dans votre position sur le terrain ? Quelle était votre place pour la première série et pour la deuxième ?
Le premier temps de ce travail, c'était la découverte pour moi de ces ghettos de jeunes filles. J'avais travaillé dans des ghettos avant, dont j'avais tiré le film Bronx Barbès, mais ça c'était avant 2000. Et là, j'ai découvert ce phénomène qui est lié à la guerre de 2002 et à la partition du pays en deux. Et donc, j'avais besoin de prendre une place dans ces ghettos de prostitution qu'on appelle des ghettos de Fresh-Ni, de Fresh. Et pour ça,
au regard du jeune âge, hein, des
au regard du jeune âge, des filles fraîches. Mmh. Et donc, je savais pas trop quoi faire de moi-même parce que ce sont des lieux traversés par la drogue, assez violents, des hôtels de passe, des filles qui se vendent, des petits mecs qui tournent autour. Et avec la tête blanche que j'ai, il fallait que je trouve une contenance. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai sorti mon appareil photo en voyant une fille qui était assise sur le seuil d'un hôtel de passe. Et je lui dis, je te trouve jolie, est-ce que je peux te photographier ? Elle a commencé à poser.
Immédiatement.
Ça a été une étincelle pour moi. J'ai tout de suite compris ce qu'elle faisait. Et donc, on est rentré dans un jeu assez silencieux où je l'orientais. Ton regard plus par là. On va se déplacer un peu dans cette lumière-là. Et le lendemain, je suis revenue avec des tirages en portrait d'elle. Et quand les filles ont vu le portrait de Nafissa, cette première jeune fille, elles ont toutes voulu avoir ces mêmes portraits. Et j'avais l'impression d'être arrivée avec de l'or dans les mains, alors que c'était juste malheureuses photos tirées en A4, c'est tout. Et donc, c'est comme ça que je me suis installée dans ces ghettos. J'ai travaillé dans 3 ghettos de prostitution à Abidjan, 2 au nord et 1 au sud, sur la plage. Et j'étais devenue, j'ai travaillé entre 2009 et 2010, je suis allée 4 fois en mission pendant cette période-là. Et je ne suis jamais sortie des ghettos de prostitution, jamais. J'avais l'impression d'être calée, comme on dit là-bas, ouais, protégée par cet appareil photo, aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce que tout le monde venait se faire photographier, aussi bien les mecs, les macs, les petits marchands à côté qui vendent des oranges, celui qui vend des cigarettes, etc. Tout le monde venait se faire des portraits. Et moi, ça me donnait une légitimité. Et je pouvais rentrer, sortir, aller quand je voulais dans ces ghettos. La nuit, le jour, j'ai passé du temps dans les hôtels de passe aussi, jusqu'à 3 heures du matin. Personne ne me disait rien. Et quand je suis revenue, 3 ans après, comme vous l'avez dit, là... je voulais retrouver les filles que j'avais photographiées, mais il y a eu cette guerre post-électorale entre Ouattara et Gbagbo, et ces ghettos avaient été en partie écrasés. Les filles se sont disséminées dans la ville, et je me suis mise à les rechercher. Et donc, je les ai retrouvées. On ne peut pas dire chez elles, parce qu'il n'y a pas de chez elles. Ce sont des nomades urbaines qui nomadisent entre le trottoir où elles dorment, regroupées comme des petits chats, des baraques qu'elles louent à plusieurs ou chez un gars, et elles circulent comme ça. Mais c'est vraiment des filles qui sont à la rue, on peut dire. Et je les ai retrouvées une à une, ou une qui dormait dans un petit maquis, ces petites gargotes qu'on trouve dans tout l'Ouest africain. Et on peut dire que je les ai cherchées là où elles avaient rêvé la veille. Voilà, c'est peut-être la façon la plus juste de dire l'endroit. Et comme je revenais avec ce projet de les sortir du ghetto, et qu'elles ont été extrêmement touchées que je tienne promesse, parce que 3 ans, c'est long pour elles. On est toujours dans un temps immédiat dans les ghettos, c'est tout de suite. Elles n'imaginaient même pas que je puisse... elles m'avaient dit, on t'a oublié, on pensait que tu nous avais oublié aussi. Enfin, c'était ça la réaction. Et donc, elles étaient touchées. Et j'ai compris à ce moment-là qu'elles me donnaient quelque chose du temps en suspension, du silence, des images que j'ai saisies cette fois-ci en mettant mon appareil sur mode vidéo. Que j'ai filmé, et c'est un temps en suspension où il ne se passe pas grand-chose. Une fille se maquille, une autre chante dans sa douche. C'est des toutes petites choses ténues comme ça, et que j'ai saisies dans ce moment-là. C'est ni narratif, ni un portrait, ni rien de tout ça. C'est une mise en présence de cette fille-là, à ce moment-là, dans cet instant-là. Voilà, c'est tout. Et je sentais quand elle me donnait ça, elle me permettait de prendre le contre-pied de la représentation qu'elles ont dans l'imaginaire collectif. Elles ont une représentation de violente, d'injurieuse, de folle furieuse. Elles se battent à la lame et au caillou, elles se droguent. C'est pas faux, mais ça n'est pas que ça. On ne peut pas réduire un être humain à une seule dimension. Et au fond, ce deuxième travail, quand j'ai senti qu'elle me donnait ça, a été pour moi de leur restituer non plus la dignité comme je l'avais fait par le portrait dans un premier temps, mais leur restituer leur complexité d'être humain. Et ne pas les ramener, elles sont comme à des déchets. C'est-à-dire c'est un mot qu'on entend très souvent à propos de ces filles. Qu'est-ce qu'elle fait, cette blanche, à ramasser nos déchets? Et elles sont hors de tout. Les humanitaires ne veulent pas s'en occuper, les hôpitaux les renvoient, elles sont vraiment loin de tout. Et j'avais effectivement, comme vous l'avez joliment dit, j'ai essayé de les remettre au centre.
Manu Farine.
Vous dites, Eliane de la Tour, que c'est l'image photographique vraiment qui a été la pierre angulaire du projet, en tout cas dans un premier temps, et que c'est précisément ce qui vous a relié à elle. Est-ce qu'il y a eu d'autres projets, d'autres terrains dans votre parcours d'anthropologue ou de cinéaste qui aient suscité ce type d'échange-là?
Vous voulez dire, est-ce que la photo a joué un rôle à un autre moment dans ma vie? C'est ça que vous voulez dire, dans mon travail?
Et un rôle de cette nature-là, c'est-à-dire vraiment un rôle
d'échanges entre vous?
Mais en fait, j'ai fait beaucoup de films, documentaires et fiction. Et en fait, dès qu'on pose une caméra quelque part, si on fait rentrer l'autre dans un jeu à deux, entre celui qui filme et celui qui est filmé, on a un échange, même si le film peut être développé ou être diffusé plus tard, alors que là, la photo, il y a un échange immédiat. Il n'empêche qu'il y a quand même un échange quand on construit des scènes, quand on construit des personnages. Il y a un échange immédiat parce qu'on partage un même destin.
Vous avez écrit des textes scientifiques, bien sûr, après enquête sur le terrain, des essais, mais aussi des textes littéraires. Vous avez tourné des documentaires, mais aussi des fictions. C'était Bronx Barbès en 2000 autour des gangs de rue en Afrique. Et puis après l'océan en 2009, sur le destin croisé de deux migrants. À quel moment de votre parcours d'anthropologue, de cinéaste, de photographe, la fiction vous a-t-elle été nécessaire, Éliane Delatour?
Justement, pour Bronx Barbès, quand j'ai travaillé dans ces grands... À l'époque, c'était des très grands ghettos, très masculins. Il y avait quelques filles, c'est en ça que la situation a beaucoup changé, mais les filles étaient autour de 16-18 ans. Et aujourd'hui, dans les ghettos où je travaille, elles se prostituent à 8 ans, pubères mais 8 ans. Et donc, hier, quand je travaillais dans ces ghettos, il fallait que je raconte cette histoire à hauteur des ghettomanes, mais je ne voulais en aucun cas les mettre en péril parce que ces ghettos sont traversés par des pratiques illicites. Le braquage, le vol, les ventes d'armes, toutes les drogues possibles, etc. Donc il était hors de question, je n'ai jamais imaginé une demi-seconde faire un documentaire avec, comme on fait à la télévision, avec des visages floutés. Je déteste ça parce que ça écrase complètement la personne qu'on filme. Et je voulais les mettre en héros de cette histoire. Et donc, il fallait que je passe par un contrat moral et les transformer en acteurs. Donc, on a fait un casting avec deux directrices de casting. Tout le monde est venu, tous les ghettomanes que j'avais rencontrés pendant cette enquête de 2 ans. Mais c'est ce que je leur disais tous, c'est pas parce que tu es ghettoman ou c'est pas parce que tu es un braqueur que tu vas être un bon acteur. Et c'est pas, peut-être que tu braqueras très mal devant une caméra. Donc ça, ils avaient compris. Et donc, on a pris ceux qui étaient les meilleurs. Et les 5 rôles principaux, c'était des ghettomanes ou qui avaient été ghettomanes avant.
Mais donc la fiction est arrivée à ce moment-là. Oui. Des questions, Muriel Bloch? Je vous vois
moi,
très attentive.
Moi, parce que je l'ai vu, Bronx Barbès, quand c'est sorti. Et ce qui m'avait frappé, c'est le langage.
Oui.
Et ça, je me demandais, est-ce que c'est pas vous qui avez... C'est eux qui ont apporté leur langage ou comment...
Non, pas du tout. J'ai écrit...
Éliane de la Tour. Je rappelle votre nom, simplement, aux auditeurs.
Voilà, c'est moi, Éliane de la Tour.
C'est
extraordinaire, ça. le langage, c'est le nouchi, c'est du français de rue d'Abidjan, comme on parle le verlan ici, sauf qu'il n'y a pas le système d'inversion. Et c'est un... Donc, n'importe quel français qui est un peu... Qui comme moi, un peu dans les ghettos, la rue, ou même c'est une langue qui est largement comprise dans la société et très poétique, très belle, très déstructurée, magnifique, et qu'en tant que francophone, on comprend très très vite. En fait, il n'y a pas de magie là-dedans. Et j'ai écrit tous les dialogues dans ce français cassé. Et j'ai, après, pour être sûre quand même de mon coup, j'ai travaillé avec des vieux pères de ghetto à qui j'ai lu mon scénario, à qui je lisais mon scénario et ils corrigeaient mes dialogues. Voilà.
Manu Farine.
À vous entendre, Éliane de la Tour, parler de votre cinéma, on a le sentiment qu'il s'est agi quand même aussi de contrer vraiment des représentations préexistantes. Hein, je pense notamment pour Après l'océan, où vous disiez qu'il fallait contrer l'image exotique. Contre la représentation idéologique du viol pour la scène très frappante du viol collectif dans Bronx Barbès. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs une représentation idéologique du viol, hein, Éliane de la Tour?
Alors, je vais reprendre sur le début de votre phrase. C'est-à-dire, en fait, je crois qu'en tant qu'anthropologue, notre métier, c'est de contrer. C'est d'aller contre les idées reçues, c'est d'aller contre les poncifs et de casser tout ça, de prendre du temps. Parce que lorsqu'on fait du terrain en tant qu'anthropologue, on passe énormément de temps, on s'investit et on essaye de générer des sources et des connaissances qui vont contre... justement les idées toutes faites qui amènent très souvent au racisme et à la xénophobie et à l'ostracisme. Donc ça, c'est effectivement une attitude d'anthropologue. Et votre question sur le viol, le viol dans le cinéma a des codes. Enfin, le cinéma général, je dirais le cinéma européen, depuis sa naissance aux États-Unis et en France, on le dit très libre, très foisonnant, ce qui est absolument vrai, mais il n'empêche qu'il y a des codes de représentation, et notamment dans la gestion des émotions. Mmh. Et quand vous traitez du viol, vous verrez très souvent que le viol est traité de manière... Il y a beaucoup de plans, par exemple. Pour traiter une scène, on met beaucoup de plans, des plans serrés, pour voir sans voir. Et moi, c'est ça qui a tellement choqué à l'époque, et notamment les féministes. Je l'ai fait en trois plans. Un plan très large, où on voit le viol commencer, puis je m'approche, et puis après, je serre sur les violeurs. Et les féministes, et les gens qui m'en ont tellement voulu, ne comprenaient pas pourquoi je n'étais pas sur la victime. Mais à ce moment-là du film, c'était impossible d'être sur la victime, puisque je racontais l'histoire des violeurs. Tout le début du film, et cette victime est devenue un personnage justement après le viol. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à la filmer. Mais on ne peut pas filmer une victime pour filmer une victime si narrativement c'est faux, on n'est pas dans la morale, dans, si vous voulez, c'est toujours le problème de moralité esthétique. Souvent, surtout les bons sentiments amènent souvent quelque chose de faux. Et justement, là, je suis contre.
Ariel Bloch, vous vous souvenez, j'imagine, de cette scène dans Bronx Hermès ? Pas de commentaire. Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé de nous apporter un son, de nous soumettre l'idée d'un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi, Liane de la Tour.
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.
Identification de ce son, Eliane de la Tour, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Awa Sango, une des go de Koteba. Elle chante ce morceau sur le disque que j'ai produit, sur les voix d'Abidjan. Et c'est une des voix magnifiques. Maintenant, elle est aux États-Unis. Et à l'époque, elle était là-bas. Et j'ai capté ce chant que je trouve sublime, seule.
La ilala.
Le prochain projet que vous allez mener, quels seront vos prochains sujets, Eliane de la Tour ?
Là, je suis en train de finir un film encore sur ces go de nuit.
Et quel est l'angle cette fois-ci alors ?
Un documentaire long. C'est le même que celui de l'exposition, mais j'en fais un film avec une narration que je ne vais pas dévoiler ici et qui s'appelle Go de Ghetto. Et c'est à la fois ce temps suspendu et puis comment ces filles qui sont dans ces ghettos qu'on trouve très belles peuvent à un moment donné basculer dans autre chose. Voilà.
Puisque vos photographies, c'est aussi d'une certaine façon l'art du portrait, est-ce qu'il y a des photographes, des documentaristes qui ont pu fonctionner comme des références pour vous, Eliane de la Tour, au niveau de la photographie ? Antonio Salgado ?
Voilà, oui, définitivement, oui. Et j'ai vu le film de Wim Wenders, et c'est une splendeur. Et cet homme, je me sens très très proche dans son engagement, parce que c'est pas, il fait à la fois de la photo de reportage, mais il reste avec les gens. Et c'est ça qui est tellement bouleversant. Il fait pas de la photo qu'il arrache comme ça ensuite pour aller faire des expositions au Grand Palais. Il reste avec les gens, il reste avec les Indiens, il reste avec tout le monde des mois, voire des années, avant d'arriver à comprendre et ensuite de faire ses photos. C'est ça qui me touche profondément.
Comment vous avez compris la rupture dans son parcours, parce que qu'en effet, il a eu donc un comportement de photographe très engagé socialement, politiquement, à défendre des minorités, à parcourir tous les territoires les plus en guerre, les plus effroyables. Et à un moment donné, il dit qu'il n'en peut plus, qu'il n'y arrivera plus. Et là, il bascule d'un autre côté, c'est-à-dire qu'il va filmer le miracle de la nature. Comment vous avez compris cette chose ? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous arriver, Éliane Delatour, d'abandonner à un moment donné ce qui est trop difficile à regarder en face pour contempler autre chose ?
Oui, absolument. Quand il s'est retrouvé devant ces milliers de cadavres au Rwanda, qu'il était là dans l'odeur de la mort en permanence, je comprends tout à fait qu'à un moment donné, il y a une sorte d'écœurement probablement sur ce que c'est que l'humain et qu'il eut envie de faire cette rupture et d'aller vers la vie en faisant pousser des arbres et en restant du côté de la nature. Oui, je comprends tout à fait.
Plateau Histoire avec vous, Muriel Bloch, conteuse, à moins que vous ne soyez racontante. Qu'est-ce que vous préférez ?
J'aime bien racontante. Ah ben,
c'est pour ça qu'on vous pose la question.
Il y a quelque chose de joyeux là-dedans. C'était les enfants qui m'avaient baptisée comme ça quand j'ai commencé avec le centre Pompidou qui n'était pas encore construit. Et j'allais dans les écoles du quartier de Beaubourg, notamment l'école Saint-Méry, qui était une école qui pratiquait la pédagogie Freinet, donc l'expression du texte libre. Et moi, je m'interrogeais sur ce que c'était. Qu'est-ce qu'un enfant peut raconter en dehors de la vérification des connaissances ? Qu'est-ce que c'est qu'un texte libre ? Cette question-là était très, très forte en moi. Et du coup, je leur piquais leurs cahiers, que je photocopiais en douce dans les bureaux. Et puis, comme un facteur qui, au lieu de... je voulais leur donner quelque chose en échange, il n'y avait pas de raison, donc je lisais les textes et puis je trouvais une histoire à raconter au regard de ce qu'ils m'avaient prêté et que j'avais dépiauté. Et c'est eux qui m'ont baptisée racontante.
Muriel Bloch, donc artiste de la parole depuis la fin des années 70, auteur de livres pour la jeunesse. On vous reçoit quelques jours de l'ouverture du 30e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Vous y présenterez vos albums, parus chez Didier Jeunesse ou aux éditions Le Genevrier. Et puis vous allez monter sur scène, là-bas, accompagné par le musicien João Mota, pour une carte blanche autour des contes du monde. Vous avez choisi votre corpus, j'imagine, quel est l'angle ?
Oui, parce que j'aurais bien aimé rebondir d'ailleurs sur les propos d'Éliane à propos de Salgado, puisque je raconte régulièrement à Paris dans un endroit qui s'appelle l'espace Krachberg. Et Franz Krachberg est un artiste brésilien qui a 94 ans et qui a vécu le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, les camps. Il est juif polonais. Il est venu en France, je vais très très vite, mais allez-y. Il est venu en France juste à l'après-guerre, ne supportant même pas Paris, alors que Chagall, Léger l'ont accueilli. Il parlait russe, il parlait yiddish, il parlait polonais, bien entendu. Et même cette vie à Paris en 1946 était très difficile pour les artistes étrangers. Et c'est Chagall qui l'a envoyé au Brésil. Une histoire tout à fait étonnante. Pour partir au Brésil, les jeunes femmes avaient besoin de soit d'être mariées, soit d'avoir une famille qui les attendait là-bas. Et il y avait une jeune juive qui devait se rendre au Brésil. Et on a marié Franz Krachberg, qui ne connaissait pas cette jeune fille, la veille du départ au consulat. Ils ont pris le bateau pour arriver là-bas. Et lui, il est descendu trop tôt. C'est-à-dire qu'elle devait arriver à São Paulo. Et lui, il est descendu à Rio. Bref, ils ne se sont jamais vus vraiment, à part cette cérémonie factice. Il ne connaît même pas son nom. Et il a débarqué au Brésil. Et là, il a eu beaucoup de mal dans les villes, comme un immigré qui ne parlait pas la langue. Et ce qu'il a sauvé, c'est la nature brésilienne. Et il dit lui-même qu'il est né une seconde fois au Brésil. Donc je suis très attachée à cet endroit, qui est une petite galerie tout au bout de ce qu'on appelle le chemin du Montparnasse, 21 avenue du Maine. Et Franz Krachberg a vu aussi la déforestation et le sort réservé aux Indiens d'Amazonie. Et du coup, il a été un des premiers témoins, un peu comme Joseph Beuys l'a été, traumatisé de la même manière par la guerre, faisant de son art un témoignage plus encore, une éthique plus qu'une esthétique, du coup. Et il est un grand défenseur de cette forêt. Et sa manière à lui de travailler, c'est toujours à partir des matériaux de la nature. Les hommes ne l'intéressent pas. Alors, cette galerie, moi, j'essaie de la faire vivre une fois par mois en invitant ethnologues, photographes, écrivains qui ont un lien avec le Brésil. et les questions d'environnement. Et chaque fois, je raconte autour de...
Parce que hier, qu'est-ce que vous avez raconté, alors ?
Alors, hier, on avait invité deux artistes étonnants qui vivent à Bordeaux. Lui s'appelle José Lepiez, ainsi que sa compagne Patricia, j'oublie son nom de famille à elle. Mais ils sont venus tous les deux présenter ce qu'il appelle des arbres à son. Il avait rencontré Franz Krachberg. Il se trouve que Franz Krachberg était arrivé à Paris la veille, donc il était présent. Et ce travail de José Lepiez, il a été élagueur pour la ville de Paris. Et il a découvert la capacité de faire résonner les arbres. Bon, son père était sculpteur, son grand-père était forestier, et lui, il fait chanter le bois des arbres. Et en même temps, il est aussi très impliqué dans les questions d'environnement. Donc j'ai raconté, au regard de ces sons, des récits empruntés à différentes traditions, brésiliennes, oui, mais japonaises, européennes, enfin, en écoutant ces sons incroyables, juste en caressant des bois différents, que ce soit un pommier, un bois d'acajou, c'était très beau.
Hélène Delatour ?
Oui, sans être même un connaisseur du Brésil ou versé sur l'écologie, on peut regarder les œuvres de Krachberg comme des œuvres d'une beauté, mais invraisemblable, bouleversante. Et il y a ces grands arbres creusés, il met de la peinture rouge dedans.
C'était l'hommage à Chico Mendes, qui était le défenseur, le syndicaliste de la région d'Acre, dans le nord de l'Amazonie, qui avait été assassiné. Et il le connaissait bien. Et cette sculpture est magnifique.
On peut voir toutes les sculptures de manière comme un art achevé, je trouve. Et c'est vrai qu'il se sert de matériaux de nature et qu'il défend et qu'il a ce combat-là. Mais indépendamment de ça, on pose ses yeux et on est rempli. Voilà.
Ce sont des bois brûlés qui lui rappellent évidemment les cendres de l'Europe. Et il a retrouvé les mêmes cendres en Amazonie. Et donc, il récupère ces bois brûlés et il en... Voilà.
Ouais. Benoît Lagan.
À propos des lieux où vous avez compté dans des théâtres, des musées, des prisons, des hôpitaux, des jardins. Demain, vous serez dans une médiathèque à Saint-Jean-de-Luz pour une nuit du conte. La semaine prochaine, au salon de Montreuil, vous avez même compté dans un cimetière. Et pour vous, c'est le lieu qui impose le répertoire, j'ai pu lire, et que tout l'art du conte consistait par ailleurs à jouer avec la gestuelle, le rythme, la sonorité, la cadence des phrases. Et je me demandais quels étaient les lieux qui vous avaient le plus appris sur votre propre façon de conter, Muriel Bloch.
Alors moi, je ne viens pas de la tradition orale et je n'aime pas trop le mot de spectacle, de conte. Ce que je trouve intéressant dans la place du conteur, c'est quelqu'un qui met en résonance un lieu. Et donc, le contexte est très important. La gestuelle, au fond, je m'en fiche. Moi, je n'ai jamais fait de théâtre, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est ce qu'on a à dire dans une situation donnée, à un moment précis, pour une fois, une seule. Once upon a time. Juste une fois. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans les possibilités offertes aux conteurs, qui ne sont pas des comédiens. C'est-à-dire qu'il y a une liberté de la parole, et cette parole, elle est là pour faire résonner une situation. Donc il faut plus être à l'écoute de ce qui se passe, des gens avec qui on est. La question de la gestuelle, du rythme, évidemment que raconter, c'est de la musique. J'aime être accompagnée d'artistes musiciens, parce que je ne le suis pas moi-même. Les conteurs traditionnels étaient des artistes complets, eux, chanteurs, danseurs, musiciens. Moi, je suis du côté des mots et des récits. Et du coup, la forme, au fond, elle est assez spontanée, assez naturelle. Et je ne me préoccupe pas de savoir comment je fais. Je me débrouille. Mais ce qui m'importe, c'est ce qu'on a à dire, dans le moment.
Muriel Bloch, vous avez fait des études de cinéma, même un DEA, je crois, sur le cinéma flou.
Sur le flou au cinéma. C'était le flou de ma tête. Je ne savais pas quoi faire comme.
Mais c'est pas mal le
Parce
flou au cinéma.
Il y a un lien entre le cinéma et le conte, bien évidemment. C'est le cinéma du pauvre. Et je ne savais pas du tout quoi faire de moi-même. Et j'avais fait des études de Hippocane, tout ça. Et puis je ne voulais pas être prof. Et je me suis retrouvée à Nanterre. Et j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma. Et je ne savais absolument pas sur quoi travailler. Mais. La question du flou, c'est-à-dire j'avais appelé ça incertitude perceptive dans le cinéma expérimental des années 20 aux années 60. C'est dire F comme flou au cinéma. Et donc, je regardais aussi bien les films de Germaine Dulac, hein, La coquille et le clergyman, jusqu'au journal de Jonas Mekas. Enfin, voilà. Et j'ai réussi à écrire sur le flou, mais c'était le flou de ma tête. Hein.
Alors, vous avez travaillé aussi au Centre Pompidou, et c'est autour de l'art moderne, alors, c'est peut-être une légende, hein, que vous êtes retrouvé à conter, je crois. Qu'est-ce qui, dans la façon de raconter l'art moderne, vous a ensuite entraîné vers le conte, Muriel Bloch?
Alors, il fallait bien gagner sa vie, donc j'étais gardienne au musée d'art moderne, palais de Tokyo. Justement, j'étais dans la salle de Joseph Beuys avec le piano recouvert de feutre pendant toute la journée, c'était dur. Et ensuite, j'ai été engagée à l'atelier des enfants que dirigeait à l'époque Daniel Giraudy. Et pour ça, j'étais animatrice, hein, on servait d'intermédiaire entre les artistes qui avaient des projets, qui avaient un monde, et puis les enfants. Et parfois, ces artistes ne savaient pas transmettre leur monde aux enfants, donc on était là pour servir d'interface. Et dans le même temps, y avait une cellule pédagogique au musée, et moi, je ne venais pas du monde de l'histoire de l'art, donc je ne savais pas. Et en même temps, j'ai pensé, en accueillant les groupes de tous âges, hein, au musée, je me suis mise à leur raconter des histoires sur les œuvres, comment on pouvait rentrer dans les tableaux et comment, avec un conte coréen, on pouvait peut-être comprendre la démarche de Mondrian, par exemple, puisqu'on avait au musée, depuis le premier arbre jusqu'au carré rouge, noir et blanc, je racontais un conte coréen, ou les dos de Matisse, je racontais un conte chinois, Et c'est le hasard qui a fait que la BPI organisait une expo dans la fosse de l'époque, et ça s'est appelé Alice, Ulysse, Oïs. Et les livres étaient finalement assez mal présentés parce que c'était avec de la tôle ondulée, les enfants n'avaient pas accès aux livres, et par toute une série de hasards, on m'a demandé de m'occuper de l'animation de cette expo. Et il y avait un conteur professionnel, lui, qui avait été engagé, qui s'appelle Bruno de la Salle, et qui m'a dit de façon catégorique, vous allez raconter. Je dis, d'accord. Et du coup, je me suis lancée, et puis le bouche à oreille, ça continue d'ailleurs. Ma cousine vous a entendu au Centre Pompidou, je suis directrice d'une école à Nanterre, vous viendriez, c'est pour les maternelles. Je dis, oui. Et du coup, j'ai compris que c'était un monde que j'allais apprendre tout le temps. Et j'ai toujours dit oui, et pour aller n'importe où, et c'est comme ça qu'on apprend.
Dans le monde entier même. Benoît,
chaque soir, nous demandons à nos invités donc de nous soumettre une idée de son. Et en ce qui vous concerne, vous avez décidé de venir avec une sorte de bouteille.
C'est-à-dire que j'avais oublié mon tuyau.
Ah oui, vous devez venir avec deux tuyaux. Oui,
j'ai oublié mes tuyaux à la maison, et j'étais triste. J'ai cherché un quincailler dans votre quartier. Il n'y a pas de quincailler.
Il y en a de moins en moins.
Il n'y avait pas de quincailler, mais il y avait un pressing retoucheur au 22 de la rue des Bougainvilliers, et il y avait à côté un épicier. Alors j'ai fait quoi ? J'ai acheté la bouteille d'eau, j'avais soif, j'ai bu l'eau, je suis rentrée chez le gars du pressing, délicieux, je lui ai dit, vous pouvez me prêter vos ciseaux pour que je coupe ma bouteille ? Et il a dit, non, pas ma paire de ciseaux. Je lui ai dit, par exemple, le cutter. Et finalement, il m'a dit, mais pourquoi ? Alors j'ai dit, parce que j'ai oublié mes tuyaux. Alors je lui ai expliqué.
Je lui ai dit, moi, je vous ai renfermé tout de suite.
Et alors du coup, je lui ai dit, vous voyez, je viens de boire une bouteille d'eau, mais si je la découpe, il y a moyen de faire du son en découpant la bouteille. Ah, il m'a dit, montrez-moi. Et du coup, c'est rien du tout, mais c'est une petite percussion intéressante.
Et quand vous avez besoin de vos tuyaux, c'est pourquoi ?
Ah, ils sont magnifiques, ces tuyaux. C'est souvent les musiciens qui m'accompagnent qui les manipulent, mais parce que c'est des doubles sons. Et alors, ça a un effet. Et surtout, j'utilise ces tuyaux pour chasser les mauvais esprits. J'aime bien ouvrir. Le conte, c'est un rituel quand même. Donc, on invente son rituel. Le mien, c'est à partir des tuyaux. Mais après, le récit arrive et la musique aussi.
Alors, parallèlement à ce son en direct, vous nous avez aussi demandé de vous retrouver ceci.
Ah, cette histoire me dégoûte. Un jour, je finirai par sauter d'un balcon. Et cet enterrement, avez-vous une idée de ce qu'il coûte, au prix où revient l'orchidée ? Elle devait partir sur son yacht pour Java.
C'était presque un karaoké, vous connaissiez absolument tout. Les intonations, qu'est-ce qu'on écoute et pour quelle raison?
On écoute Muriel Bloch. Marianne Oswald, un poème de Jean Cocteau, Anna la Bonne, d'après un poème de
d'Edgar Allan Poe,
qui a marqué mon adolescence, qui était Annabelle Lee, et qui commence par It was long ago in a kingdom by the sea, there laid a maiden called Annabelle Lee, and this maiden she lived to love me, and so on. C'était un poème que Baudelaire a traduit, et Cocteau, alors c'est pour ça, pour moi c'était l'exemple du travail du conteur, c'est-à-dire que Cocteau s'inspire du poème Annabelle Lee, parce que c'est Mademoiselle Annabelle Lee, depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Ça commence comme ça. Et Marianne Oswald est une interprète extraordinaire, originaire de Sarreguemines. Je suis allée à Sarreguemines il n'y a pas longtemps. Et du coup, le poème m'est revenu de Annabelle Lee. Donc c'est vraiment ça. Cocteau s'inspire du poème traduit par Baudelaire et il en fait une chanson qui est parlé. Et moi, ça me convient parce que je ne sais pas chanter. Donc, voilà, c'est un poème parlé extraordinairement méchant et drôle, grinçant, par Marianne Oswald.
Le rendez-vous, la session.
Eh bien, on va peut-être rester, pas dans le grinçant, mais en tout cas dans la chanson, dans la musique, avec le live du vendredi, défendu cette fois par notre réalisateur Thomas Bou.
Exactement. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Ce soir, c'est une session transmusicale, mais c'est également une session qu'on pourrait qualifier de création et liberté. Alors pourquoi création et liberté, me direz-vous Laurent?
Ah non, j'ai horreur de ça, on dirait un homme politique.
Oui, ouais, je sais, je l'avais fait exprès. Eh bien, en fait, tout simplement, car nous allons découvrir l'une des multiples facettes de la violoncelliste et chanteuse Jeanne Adède. Avant sa création sur la scène de l'Air Libre. Et ça se passe du 3 au 7 décembre prochain. C'est pendant les rencontres transmusicales de Rennes. Une scène d'ailleurs sur laquelle on avait pu découvrir Benjamin Clémentine, qui était venu chez nous aussi, ou encore Stromae en 2010. C'est dire si cette résidence rennaise peut se révéler importante dans le parcours des artistes qui s'y produisent. Et puis création et liberté aussi, parce que finalement, ces deux mots, ça représente bien le parcours de Jeanne Adède, un parcours exigeant, parfois brutal, totalement éclectique, entre pop, lyrique et rock brutiste. Et des collaborations jazz et classiques avec Baptiste Trottignon, ça s'était passé chez nous, du jazz contemporain avec Le Bruit du Cygne, un virage presque punk avec sa formation Linakeu, qui veut dire forteresse en finnois, et forteresse en dit long sur l'efficacité de la voix radicale, intense et pure de Jeanne Adède. Ce soir, elle est accompagnée par Anne Passeo pour des préliminaires à sa création transmusicale. Jeanne Adède, elle est au chant et à la basse, Anne Passeo à la batterie et à l'électronique. A War is Coming, c'est leur titre. Jeanne, c'est à vous.
War is coming, we're stuck here, here with our many pains, with our letters. War is coming, we're stuck here, here with our many pains, with our letters. War is coming, we're stuck here, here with our many pains, with our letters. War is coming, we're stuck here, here with our many pains, with our letters. War is coming, we're stuck here, here with our many pains. Letters, hearts we slipping and now closing down. They wanna get even, wanna jerk around. Threat smearing all over me. No one to notice, recognize me. No cough or an oh, we can wash it all away. Far here we must be, far here we must stay. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die, no. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die.
C'était Jeanne Hadède en direct du studio 108 et sur France Culture en attendant la sortie de son premier album chez Naïf, ça sera au printemps prochain, et de sa création donc du 3 au 7 décembre prochain sur la scène de l'Air Libre aux Rencontres Transmusicales de Rennes, le festival qui, comme chaque année on le sait, depuis plus de 35 ans, nous fera découvrir avec brio une bonne partie de l'actualité musicale 2015. On a hâte d'y être. Infos et réservations sur lestrans.com. Et cette session a été filmée, on la retrouvera sur les réseaux sociaux et sur notre site dès demain.
Les fées sont des manipulatrices, il y en a des bonnes et des mauvaises.
C'est pas faux, mais ça n'est pas que ça. On ne peut pas réduire un être humain à une seule dimension.
Merci à nos invités. Eliane Delatour, Godenu Abidjan, les belles retrouvées. C'est jusqu'au 7 décembre à la Maison des Métallos à Paris dans le cadre du mois de la photo à Paris. Je signale que vous serez l'invité de Marie-Hélène Fraissé le 25 novembre dans son émission Tout un monde sur France Culture à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Muriel Bloch, toutes vos publications sont disponibles aux éditions Didier Jeunesse et Le Genevrier. Et je rappelle que vous serez...
Il y en a d'autres, il y en a partout. N'oubliez pas quand même ce que je raconte, puisqu'on m'avait posé la question, le 30 à 14h au Salon du Livre de Montreuil.
Ça, j'allais le dire, j'avais pas fini, très bien.
L'enfant, ouais. Le jaguar et le feu, c'est un très beau mythe amazonien.
Et demain, vous serez à la nuit du comte de Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, il faudra attendre lundi. Film de guerre et Puccini revu et sévèrement corrigé avec Michel Azavanicius et le compositeur Frédéric Verrière. Une des annonces peut-être, Benoît ?
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Benoît Lagan, Aïssatou Ndoye et Hippolyte Babilote. Journal de la culture et supplément week-end Zoé Sfez et Benoît Lagan. À la prise de son, Alex Dang, Jacques Hubert. À la réalisation et à la programmation musicale, Thomas Beau.
Et pour la vidéo, on remercie bien sûr toutes les personnes qui sont en train de filmer et de veiller donc à la production de cette vidéo. Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée et bon week-end à tous.